VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manelakiza avec vous dans cette édition du vendredi 4 mars 2022. Au sommaire ce soir, l'ONU vote en faveur d'une enquête internationale visant Moscou en Ukraine. L'armée russe occupe la première centrale nucléaire ukrainienne. Premier rapatriement de plus de 400 Nigérians qui ont fui l'Ukraine. En Tanzanie, les procureurs abandonnent les poursuites pour terrorisme contre un leader d'opposition. En Libye, l'ONU propose une médiation pour faciliter la tenue d'élections. Au Pakistan, au moins 30 morts dans un attentat dans une mosquée de Peshawar. Également, dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Invasion de l'Ukraine par la Russie, les soldats russes progressent sur le terrain. L'ONU réclame une enquête et les sanctions se multiplient contre Moscou. Le point avec Mohamedou Onfa.
L'armée russe occupe ce vendredi la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d'Europe. La nuit dernière, des tirs de chars russes sur la centrale ont mis le feu à un bâtiment de formation et un laboratoire, mais aucune fuite radioactive n'a été constatée selon les autorités ukrainiennes. Elle signale que les combats se poursuivent à Tchernigiv, au nord de Kiev, où des frappes russes sur une zone résidentielle ont fait hier 33 morts. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé une résolution en faveur d'une commission d'enquête sur les violations des droits humains et du droit humanitaire. Les membres de l'OTAN ont rejeté la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Par ailleurs, les députés russes ont adopté un texte prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour toute personne publiant des informations mensongères ayant des conséquences sérieuses pour les forces armées russes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui à la demande du Royaume-Uni afin d'étudier les conséquences des bombardements russes la nuit dernière sur la plus grande centrale nucléaire ukrainienne. Cette session, demandée également par les États-Unis, la France, la Norvège, l'Irlande et l'Albanie, a été convoquée sur demande du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le président américain Joe Biden avait dans la nuit exhorté la Russie à cesser ses activités militaires dans la zone de la centrale. L'armée russe a utilisé à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des armes à sous-munitions qui sont indistinctement létales à l'égard des populations civiles et dont l'emploi pourrait constituer un crime de guerre, affirme vendredi l'organisation Human Rights Watch. Les forces russes ont fait usage de ces armes dans au moins 3 quartiers résidentiels de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, le 28 février, affirme l'Organisation américaine de défense des droits de l'homme. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a accusé aujourd'hui des soldats russes de violer des femmes dans les villes ukrainiennes occupées, demandant la création d'un tribunal pénal spécial pour juger le crime d'agression commis par Vladimir Poutine. Monsieur Kuleba s'exprimait depuis l'Ukraine dans le cadre d'une réunion en ligne organisée par Chatham House, un institut basé à Londres qui suit les relations internationales, en présence notamment de l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Nigeria a commencé le rapatriement de ses ressortissants vivant en Ukraine aujourd'hui. Plus de 400 étudiants sont arrivés ce matin à Abuja, la capitale fédérale. Le point avec notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Lors d'une audience ce matin, 415 étudiants nigériens en provenance de la Roumanie sont arrivés à bord d'un vol spécial à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja ce matin. Ils ont été reçus par des représentants du gouvernement avant d'être soumis chacun à un test de COVID-19. Le Nigeria doit évacuer quelque 5000 citoyens qui veulent fuir la guerre en Ukraine. Le rapatriement devait commencer mercredi, mais a été retardé à cause de problèmes logistiques. Le Ghana, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud ont été les premiers pays à évacuer leurs citoyens, après des informations faisant état de traitement raciste par des responsables ukrainiens et polonais au poste frontière. L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué un exode massif de civils, dont des milliers d'étudiants d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
En Tanzanie, le chef du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, a été libéré aujourd'hui après l'annonce de l'abandon des poursuites pour terrorisme engagées contre lui. Le point avec Lionel Lunanira Gahima.
Lors d'une audience ce matin, un des procureurs, Robert Kidando, a annoncé que le ministère public n'avait pas l'intention de poursuivre cette affaire. Le juge Joachim Tiganga a donc ordonné la libération inconditionnelle et immédiate des accusés. Ils avaient été arrêtés le 21 juillet à Mwanza, dans l'ouest du pays, où ils devaient participer à un rassemblement pour exiger des réformes constitutionnelles. Leur procès avait débuté le 31 août. Freeman Mbowe était accusé de financement de terrorisme et complot terroriste avec trois autres partisans. Le parti Chadema a publié en fin d'après-midi sur Twitter une photo de l'opposant entouré des trois co-accusés libres, tous vêtus de t-shirts rouges. La justice a gagné, a lancé Benson Kigaila, secrétaire général adjoint du parti Chadema. L'ambassadeur américain Donald Wright a salué sur Twitter la fin de poursuites comme une occasion bienvenue pour la Tanzanie de tourner la page.
La représentante de l'ONU en Libye a proposé aujourd'hui une médiation entre les camps rivaux pour faciliter la tenue d'élections. Le report du double scrutin en décembre a aggravé les divisions dans le pays, désormais doté de deux gouvernements concurrents. L'américaine Stephanie Williams, conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU en Libye, a proposé la mise en place d'un comité mixte afin d'élaborer un cadre constitutionnel consensuel. Ce cadre doit réunir des représentants de deux instances rivales, la Chambre des représentants qui siège à Tobrouk dans l'est du pays et le Conseil d'État basé à Tripoli et qui fait office de Sénat. Elle a proposé que ce comité se réunisse à partir du 15 mars pour se pencher pendant 14 jours sur ce cadre constitutionnel pour régir les futures élections présidentielles et législative que l'ONU souhaite voir se tenir le plus rapidement possible. Le commissariat aux réfugiés a besoin de 205 millions de dollars pour aider 1,6 million de personnes forcées de fuir la guerre qui fait rage en Éthiopie et éclipsée par l'invasion de l'Ukraine. 16 mois de conflit dans le nord de l'Éthiopie ont provoqué une crise humanitaire, a rappelé Shabia Mantou, porte-parole du HCR, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève. Les fonds réclamés doivent permettre de fournir une aide de base, hébergement, produits de première nécessité, etc. Une nouvelle tentative massive de migrants d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla sur la côte nord du Maroc a eu lieu vendredi, mais ce groupe de plus de 1000 personnes n'y est pas parvenu, a annoncé le ministre espagnol de l'Intérieur. Mercredi, la tentative d'environ 2500 migrants de pénétrer à Melilla avait été la plus massive jamais enregistrée dans cette enclave, selon les autorités. Le lendemain, environ 1200 migrants avaient de nouveau tenté d'y entrer. Au total, en deux jours, 871 migrants ont réussi à rentrer à Melilla contre 1092 sur l'ensemble de l'année 2021. Au Pakistan, au moins 56 personnes ont été tuées et 194 blessées dans un attentat suicide lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite de Peshawar dans le nord-ouest du pays. Le point avec Nanit Talani.
L'explosion est survenue quelques minutes avant le début de la grande prière du vendredi dans une mosquée chiite du quartier de Kochari-Saldar à Peshawar. Deux assaillants ont tiré sur les policiers à l'entrée principale de la mosquée. Un policier est mort sur le coup et l'autre a été grièvement blessé, a expliqué le chef de la police locale, Muhammad Ijaz Khan. Un autre témoin, Ali Asgar, a dit avoir vu un homme ouvrir le feu avec un pistolet à l'intérieur de la mosquée et tuer les gens un par un avant de se faire exploser. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée. Le premier ministre Imran Khan a fermement condamné cet attentat, le plus meurtrier au Pakistan depuis juillet 2018, lorsque, pendant un meeting électoral à Mastung dans le sud-ouest, 149 personnes avaient été tuées. Le groupe État islamique avait revendiqué l'attentat. Le Pakistan est confronté au retour en force du Terek et Taliban Pakistan, les Talibans pakistanais, qui semblent galvanisés par l'arrivée au pouvoir des Talibans en Afghanistan.
Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est déclaré prêt vendredi à se rendre à Vienne en cas d'accord sur le nucléaire, à un moment où les négociateurs ont fait état d'avancée dans les pourparlers. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La Minute Éco signée Mohamedou Oufa.
Le Bénin a levé plus de 155 milliards de francs CFA, plus que les 150 milliards initialement recherchés sur le marché financier régional, grâce à deux emprunts simultanés d'une maturité allant jusqu'à 20 ans. Lancé sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 14 février, l'emprunt a été clôturé plus tôt que prévu le 22 février au lieu du 4 mars. Selon Jeune Afrique, ces fonds permettront au pays de financer les projets du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Microsoft a annoncé un financement potentiel de 500 millions de dollars en partenariat avec des investisseurs en capital risque. Ce financement permettra de soutenir 10 000 startups en Afrique au cours des 5 prochaines années. D'après Financial Afrique, la priorité sera accordée aux startups ayant une portée mondiale ou ayant un intérêt dans une ou plusieurs régions d'Afrique. La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, a injecté une nouvelle enveloppe de 200 milliards de francs CFA dans le système bancaire régional. Les banques avaient demandé 316 milliards de francs CFA selon le rapport de l'opération rendue publique par la BEAC. Ces opérations d'injection de liquidités permettent non seulement de financer les économies de la CEMAC, mais aussi d'éviter au marché interbancaire une exposition au risque de liquidité, explique investir-au-cameroun.com.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La saison 2 de la Basketball Africa League débute ce samedi 5 mars à Dakar au Sénégal. Le Rwanda, hôte de la saison inaugurale de la balle l'année dernière, est représenté par le Rwanda Energy Group, en abrégé REG. Avant le départ de l'équipe pour la capitale sénégalaise, Jean-Baptiste Mikomiza a suivi une de ses séances d'entraînement à la Kigali Arena. Voici son reportage repris par Nanit Talani.
Selon certains habitants de Kigali, la capitale du Rwanda, REG est un club pas très connu.
Je n'ai aucune idée de REG, mais de toutes les façons, je leur souhaite du succès.
La direction de REG affirme que certains Rwandais pourraient ne pas connaître le club car il a été fondé il y a seulement 5 ans.
Je ne dirais pas qu'il n'y a personne qui ne connaisse le club de basket de REG parce que vous savez que différentes personnes ont des goûts différents en matière de sport. Mais ce que je dois dire, c'est que REG, en tant que club de basketball, attire de plus en plus de fans autour de Kigali et dans tout le pays au cours des 5 dernières années que nous existons. Notre base de fans augmente année après année. En 5 ans, nous avons remporté 2 trophées de la Ligue nationale.
Les 12 équipes participant à la saison 2022 de la BAL sont divisées en 2 conférences. La conférence Sahara et la conférence Nil. Comment REG s'est-il préparé pour battre ses adversaires? Francis Mourindabigui est le président du REG Football Club.
Nous aimerions faire mieux que les Patriotes qui ont représenté le Rwanda l'année dernière. Ils ont atteint les demi-finales. Nous, nous voulons atteindre la finale. Nous nous sommes bien entraînés et nous espérons pouvoir atteindre cet objectif.
Le capitaine du REG Basketball Club, Eli Kagé, pense également qu'ils peuvent faire mieux que le club qui a représenté le Rwanda l'année dernière.
Tout est en ordre en termes de préparation pour que nous puissions obtenir des meilleurs résultats par rapport à ce que le club qui a représenté le Rwanda a atteint l'année dernière.
REG débutera la compétition en jouant contre l'association sportive Salé du Maroc le 6 mars 2022 à Dakar au Sénégal.
Merci Nanit. Le match d'ouverture de cette deuxième édition mettra aux prises Dakar Université Club et Seydou Legacy Club de la Guinée. Pour le coach du Duc, sa formation donnera le meilleur d'elle-même pour honorer sa participation. Parfait, Adjivon.
Nous allons faire tout quand même pour ne pas décevoir. On est prêt, mais maintenant, il reste maintenant à apporter quelques réglages. Compte tenu de certains jeux qui sont venus un peu en retard, comme c'est le cas de Babacar Sané, qu'on va trouver à Sali, donc il faut le mettre dans le bain le plus rapidement possible.
Parfait, Adjivon, coach de Dakar Université Club.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandelakiza avec vous, place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a nommé hier son premier ministre, Albert Ouedraogo, universitaire et expert en audit des entreprises. Mardi, le lieutenant-colonel Damiba a signé une charte de la transition prévoyant une période de 3 ans avant des élections et la formation d'un gouvernement de 25 membres dirigé par un premier ministre civil. Mercredi, le chef de l'État a ordonné un audit général du secteur public. Quels sont les défis du nouveau premier ministre burkinabé, Yakuba Ouedraogo, a posé la question à Thomas Ouedraogo du Centre pour la gouvernance démocratique basé à Ouagadougou.
C'est un économiste, un expert en gestion, en management. Ça correspond à quelque chose d'intéressant pour le management d'une équipe gouvernementale dans un contexte normal, régulier.
Le contexte, on le sait, il est miné par cette question sécuritaire. Pensez-vous qu'il puisse être celui-là qui pourra aider à donner une ligne de conduite dans ce sens?
Donc, dans une situation anormale, il faut forcément qu'il se surpasse et qu'il use des moyens de management et d'anticipation, d'ouverture pour pouvoir adresser les gros défis auxquels il est certainement confronté.
Quels sont justement ces gros défis-là?
Il y a la question sécuritaire, il y a la question économique, la question des places internes qui se présentent comme des défis majeurs. Il faut également dire que dernièrement, nous avons des raisons, après la signature de la charte, de craindre de redoutables sanctions, n'est-ce pas, de la communauté internationale, dont la contribution est certainement attendue dans cette situation difficile que le Burkina traverse. Vous remarquerez que on a eu une annulation plus récente du déplacement du président du Ghana qui devait venir au titre de la CEDEAO. Et pendant la signature de la charte, l'Union européenne n'a pas envoyé les ambassadeurs mais les chargés d'affaires. Donc ce sont des signaux qui montrent que s'il n'y a pas de réglage ou d'assurance, nous n'aurions pas le soutien de la communauté internationale. Or, dans notre cas précis, mais c'est difficile d'ouvrir des fronts, à la fois à l'interne, et à l'interne, il y a plusieurs fronts qui sont ouverts. Il faut dire qu'il y a un front qui est ouvert avec les partis politiques, à n'en pas douter, un front qui est ouvert avec nombre d'organisations de la société civile et un front probablement interne aux forces publiques de sécurité ou de défense. Si un front à l'extérieur qui est ouvert, ce serait un gros challenge.
Le chef de l'État a ordonné mercredi dernier un audit général du secteur public. Le nouveau premier ministre est expert en audit. Est-ce qu'il y a un lien?
Probablement qu'il y a un lien. Mais évidemment, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'il y ait un audit systématique. On voudrait qu'à côté d'une administration et des sociétés qui sont indexées, qu'il y ait un audit aussi au niveau de l'armée, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été consenti depuis ces 2 ou 3 dernières années pour l'armée. On voudrait savoir ce qui n'a pas marché, et qui sont les auteurs, et certainement améliorer le système de gestion de manière globale.
Thomas Ouedraogo du Centre pour la gouvernance démocratique, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le pape François effectuera sa première visite en République démocratique du Congo pour 3 jours à partir du 2 juillet prochain, avant de se rendre au Soudan du Sud. Eddy Isango a joint à Kinshasa le chapelain du pape en RDC et porte-parole de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Donatien Ntchole.
Il arrive le 2 juillet et repartira le 5 juillet.
Sous quel signe va-t-il placer ses voyages? Ça, c'est le tout premier du pape François en République démocratique du Congo.
Eh bien, là, c'est celui qui arrive. Nous ne savons pas dire avance quel message il nous apporte. Pour nous, c'est une visite apostolique. Il vient comme successeur de Saint-Pierre et il assume la charge que assumait autrefois les princes des apôtres Saint-Pierre, celle de Petre, ses brebis, celle d'édifier son église, et vient certainement nous apporter un message d'espérance et nous affermir dans la foi.
Nous avons appris qu'il va aussi à Goma, dans l'est de la République du Congo, une partie qui est en proie à des violences depuis des années. Y a-t-il une signification pour cela?
Ah ben, c'est une grande expression de sollicitation pastorale. Tout le monde sait comment est la situation là-bas. C'est un coin du pays où l'insécurité est grandissante, où la population souffre énormément, que le Saint-Père est décidé d'y aller. Je crois que, et à son âge en plus, je crois que c'est un grand message, un grand témoignage de l'amour qui conduit à donner sa vie pour ce qu'on aime.
Pourquoi seulement maintenant? Est-ce que c'est un choix ou ça a une signification? On sait que tous les présidents de la République du Congo, en commençant par Joseph Kabila, maintenant par Félix Tshisekedi, se sont rendus là-bas pour lui donner des invitations.
Oui, donc, comme vous le savez, le président de la République l'avait invité, la conférence épiscopale aussi l'avait invité, mais ils lui ont laissé la latitude de choisir le moment, et là, c'est à sa discrétion. Il l'a proposé, nous ne pouvons qu'accepter.
Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape en RDC et porte-parole de la conférence épiscopale du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
De récents sondages montraient que les Américains approuvent de plus en plus la manière dont le président Joe Biden a géré l'invasion russe de l'Ukraine. Une proportion croissante d'Américains se disent prêts à payer plus pour l'essence du fait des sanctions contre Moscou pour défendre un autre pays démocratique. Le reportage est de Patsy Widakuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche. Le récit signé Michel Joseph.
Un élan de soutien des Américains à l'Ukraine lors d'un récent rassemblement devant la Maison-Blanche. Naoma est une habitante de Washington.
Il est vraiment, vraiment crucial que les dirigeants du monde agissent et se prononcent sur ce qui se passe en Ukraine.
Même préoccupation pour John, originaire de Miami.
Juste pour voir ce que tout le monde traverse pour survivre, c'est percutant. C'est littéralement le moins que je puisse faire.
Désirée Cantatelle est venue de la Virginie voisine pour défendre la démocratie.
La démocratie est fragile, et pas seulement en Ukraine, mais dans le monde entier. Et pour moi, c'est un effet domino.
Les Américains se sont mobilisés dans d'autres villes, dont Los Angeles et New York. Lors de son premier discours sur l'état de l'Union, le président Joe Biden a longuement parlé de l'Ukraine. Il y a eu une ovation debout des législateurs démocrates et républicains pour l'ambassadeur ukrainien. Alors que l'invasion russe se poursuit, les Américains approuvent de plus en plus la réponse de Biden à cette crise. Jerry habite Los Angeles.
Je crois que Biden fait tout ce qu'il peut. J'aimerais qu'il en fasse plus. Je comprends l'équilibre délicat et le désir d'éviter d'en arriver à une escalade du conflit.
43% des Américains approuvent la réponse de Biden à la Russie, contre 34% la semaine dernière, selon un sondage Reuters-Ipsos. Cliff Young de l'Institut Ipsos.
Dans l'ensemble, nous constatons une augmentation d'environ 7 à 9% du soutien à des politiques spécifiques liées à l'Ukraine. Et c'est quelque chose de très typique. On le voit souvent en temps de guerre et de conflit. Nous appelons cela un rassemblement autour de l'effet drapeau.
Selon le même sondage, 58% des Américains disent qu'il vaut la peine de payer plus pour l'essence à la suite des sanctions contre la Russie, afin de défendre un autre pays démocratique comme l'Ukraine. Mais tous les Américains ne sont pas d'accord. L'ancien président Donald Trump a utilisé cette crise pour attaquer Joe Biden.
Le problème, ce n'est pas que Poutine soit intelligent. Mais bien sûr, il est intelligent. Mais le vrai problème, c'est que nos dirigeants sont stupides.
Dans l'ensemble, les sondages suggèrent que les Américains sont favorables au soutien humanitaire et militaire à l'Ukraine, mais contre l'envoi de troupes américaines dans ce pays.
Basketball, avant de vous quitter, la deuxième édition de la Basketball Africa League, la Ligue africaine de basketball, commence ce 5 mars à Dakar, au Sénégal. Deux autres villes, Le Caire et Kigali, abriteront des matchs de cette deuxième édition, comme le premier et historique acte qui a eu lieu en mai 2021 à Kigali. 12 équipes tenteront de succéder aux Amalek d'Égypte, vainqueurs de la première balle. Initiée par la NBA, la Ligue nord-américaine de basketball, en partenariat avec la FIBA, la Fédération internationale de basketball, la balle se substitue en l'ancienne Ligue africaine de basketball. Comment en est-on arrivé là? Le constat avec Yacouba Ouedraogo.
Lorsque les Amalek d'Égypte soulevaient le tout premier trophée de la Basketball Africa League à la Kigali Arena le 30 mai 2021, le continent africain venait de franchir le pas d'une meilleure professionnalisation de son basket. En effet, même si, comme le vainqueur égyptien né en 1911, la plupart des clubs phares du continent existent depuis très longtemps, ce n'est que dans les années 1970 que naît véritablement une compétition de basket interclub, la Coupe d'Afrique des clubs champions. La première édition de cette compétition a lieu en 1971 à Bangui, en République centrafricaine, remportée par le club du pays hôte, Red Star. Certains talents africains explosaient en NBA dans les années 80. Sonny Nyang est chroniqueur sportif à la VOA.
Il n'est pas surprenant que la Basketball Africa League ait baptisé deux de ses plus grands prix des noms de pionniers du continent. Le prix du joueur le plus efficace de la balle, du nom de Hakim the Dream Olajuwon du Nigeria, et le prix du meilleur joueur défensif de l'année de la balle, nommé en l'honneur de Dikembe Mutombo, le géant congolais. Probablement les deux meilleurs pivots de l'Afrique. Ils ont inspiré beaucoup de jeunes joueurs africains.
La NBA manifeste alors un intérêt grandissant pour le continent et organisera le Basketball Without Borders, Basketball Sans Frontières, à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la première fois en 2003. Ce programme met l'accent sur l'amélioration des compétences des jeunes talents du basket africain. Edouard Rouema est journaliste au service Kenya-Rwanda de la VOA.
Jusqu'à présent, de jeunes basketteurs africains talentueux ont été repérés dans ces camps. Ils incluent Joel Embiid, qui joue maintenant pour les Philadelphia 76ers. Un autre joueur qui a également participé à ce camp est Pascal Siakam, du Cameroun, qui joue pour les Raptors de Toronto et a récemment aidé son équipe à remporter son premier championnat NBA.
Aujourd'hui, l'Afrique compte une douzaine de basketteurs évoluant en NBA et qui s'affirment de la plus belle des manières, comme le dit le chroniqueur sportif du service portugais de la VOA, Johad José Santarita.
Lorsque nous comptons les joueurs d'Afrique, nous tombons sur quelque chose d'assez pénible, parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec des noms africains qui sont enregistrés pour d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans d'autres pays, disons en France ou en Grèce, mais des parents africains. Et accessoirement, il y a ceux qui sont nés en Afrique, qui ont joué en Afrique, puis sont venus en NBA.
La NBA ne doute plus que l'Afrique regorge du talent à encadrer pour leur permettre d'éclore. D'où la naissance de la Basketball Africa League, entendez Ligue africaine de basketball, lancée en février 2020, mais dont la première édition se tiendra en 2021, uniquement à Kigali, au Rwanda, à cause de la pandémie du Covid-19. Pour cette deuxième édition de la balle, 12 équipes engagées se disputeront la succession du Zamalek dans trois villes, Dakar, Le Caire et Kigali.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Ndanila Gahima et Georges Léonard Sagno. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le Monde Aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bon week-end et à la prochaine.